Attention, attention, RH moins 10 secondes. 9, 8, 7,
6,
5, 4, 3, 2,
la radio sauvage. 1,
0.
Quelle heure est-il ?
6 heures exactement.
Avant minuit, minuit.
Qu'est-ce qui se passe ?
Eh ben, il est 6 heures.
C'est l'heure. Il est l'heure.
6 heures. Avant minuit.
Yes, man.
C'est 7h minuit, alors je suis pas bon.
6h avant minuit, 18h, 19h, sur Syllab.
La radio sauvage.
Et oui, il est 6h avant minuit, vous écoutez Syllab. Nous sommes le mercredi 27 novembre 2024. Ça va vous ? Nous, ça va. Un peu d'auto-promo. Syllab sera en direct du Liberté pendant les rencontres transmusicales le vendredi 6 décembre. Ce sera de 16h à 19h, notez ça dans vos agendas. On vous propose aussi de gagner une place pour une des soirées des trans au Parc Expo. Donc ça se passe les 5, 6 et 7 décembre prochains. Ou alors un CD compile collecteur de la prog, c'est bien aussi. Mot de passe obligatoire pour gagner. Vous en souvenez les filles ?
Conan.
Goéland.
Ah, Goéland. Il y en a trop.
On n'est pas sorti le nerve. On va ne pas dire la fausse information à nos Conan, auditeurs Conan. Et auditrices. Non, non, c'est toujours pas.
Ah, mais
donc je récapitule, n'écoutez pas nos volontaires services civiques. Si vous voulez gagner, le mot de passe c'est Goéland.
Voilà.
Pour vous en rappeler, il est sur l'affiche des trans cette année. Si vous voulez en savoir plus sur les concours pour jouer, rendez-vous sur c-lab.fr dans la rubrique concours du moment. Mais en attendant, c'est le flash d'Aglaé.
Enfin, une interruption dans le conflit entre le Liban et Israël. Ce matin, à 4h heure française, un cessez-le-feu entre l'armée israélienne et le Hezbollah est entré en vigueur. Moins d'une heure avant le début de cette trêve, l'armée israélienne appelait à évacuer certaines zones et frappait la banlieue sud de Beyrouth. Pour Benjamin Netanyahou, cette pause dans les affrontements permettra à son armée à la fois de se concentrer sur la menace iranienne, mais aussi d'augmenter la pression sur le Hamas. Dans le même temps, elle poursuit ses frappes sur la bande de Gaza. 44 282 personnes y sont décédées depuis le début de la guerre. Selon les récentes données du ministère de la Santé du Hamas, jugé fiable par l'ONU. Savoure l'instant, ça vous dit quelque chose ?
Wattibule.
C'est Braise Cola, non ?
Non, c'est Coca-Cola,
ah
presque.
À ça.
Et bien maintenant, c'est Coca-Cola qui va déguster, après avoir décroché la médaille du premier pollueur plastique au monde incontesté. Et oui, France Nature Environnement a aujourd'hui informé avoir porté plainte contre le géant des sodas pour pratiques commerciales trompeuses ou greenwashing. Pour rappel des faits, durant les Jeux Olympiques de cet été, Coca-Cola, le partenaire historique des Jeux, assurait vouloir diminuer de 50% l'empreinte plastique à l'usage unique par rapport à Londres 2012. La marque disait notamment qu'elle vendrait ses boissons dans des gobelets réutilisables et consignés. Mais selon une note d'avril de la délégation interministérielle au JO, la réalité est tout autre. Plus de la moitié des boissons vendues étaient d'abord dans des bouteilles en plastique, puis versées dans des gobelets en plastique également. Trompant donc les consommateurs sur l'impact.
Respire un grand coup, Aglaé. Allez, on y va. C'est un sujet sérieux.
Sur l'impact environnemental de leurs boissons. Une plainte déposée alors qu'en parallèle, la communauté internationale se réunit pour l'élaboration d'un traité au sujet du plastique, n'est-ce pas Cyriane ?
En effet, Aglaé, car depuis ce lundi, le cinquième et dernier cycle de négociations du comité de l'ONU pour un traité mondial contre la pollution plastique a débuté. Des négociations ayant lieu à Busan, en Corée du Sud. La communauté internationale, composée ici de 175 pays, va donc avoir à s'entendre sur un texte fort à ce sujet devenu primordial. Des discussions pourtant très lentes pour le moment, selon plusieurs diplomates, quand bien même le texte doit être terminé pour ce dimanche 1er décembre, 2 ans après le début des échanges.
Mais qu'est-ce qui bloque alors ?
Eh bien, selon Erik Lindeberg, chargé de la politique en matière de plastique...
Pardon.
Quel enfer ce flash ! Mais nos pauvres auditeurs et auditrices qui veulent tout savoir sur le plastique, on respire.
Eh bien, selon Erik Lindeberg, chargé de la politique en matière de plastique au sein de l'organisation WWF, les discussions tournent en rond, comme il l'a déclaré à l'AFP.
Respirez, respirez. En fait, on fait yoga du rire, on s'est trompé ce soir.
Pardon.
On s'est trompé de fréquence.
Des blocages donc dus à un grand rejet du traité, principalement de la part de la Russie, l'Iran et l'Arabie Saoudite. Pays tirant leur richesse de leur production de pétrole, composant principal du plastique. Un traité mauvais pour les affaires, dont ces nations souhaitent abroger une partie, visant à limiter très fortement la production de nouvelles matières plastiques. Pardon.
Tu veux que je finisse ton papier?
Non,
ça va aller.
Face à ces pays, une coalition dite de la haute ambition, il se la pète un peu je sais, s'est formée. Un groupe composé d'environ 75 nations et co-présidé par la Norvège et le Rwanda, et dont la France fait partie. Son but, mettre fin à la pollution plastique pardon, d'ici à 2040, ou du moins l'utiliser avec un usage raisonné.
Et quels sont les enjeux importants de ce traité?
Comme j'ai dit, c'est avant tout celui de la production, ce qui fait bloquer les négociations. En fait, les pays producteurs de pétrole misent surtout sur la revalorisation. Pardon.
On va pas s'en sortir là. Je sais plus quoi te dire.
Sur la revalorisation du plastique après sa création. Un argument qui ne convainc pas lorsque l'on sait que pour le moment, seuls 9% des plastiques mis en circulation finissent recyclés selon l'OCDE. Et ce, pour 460 millions de tonnes de plastique produites par an. Une fabrication qui pourrait encore tripler d'ici à 2060 si rien n'est fait. Un traitement de déchets nécessitant bon nombre d'infrastructures, investissement que peu de pays peuvent se permettre. Bref, ce texte n'a au final peu de chances d'aboutir à des mesures strictes sur cette question, quand bien même on sait l'impact néfaste et important de cette matière sur notre santé et la biodiversité.
Merci Cyrienne pour ce papier incroyable.
Le plastique c'est hilarant.
Le voilà. Plastique c'est fantastique. Pas du tout, c'est faux. Et le réquisitoire du procès des viols de Mazan prend fin aujourd'hui et laisse place à la première plaidoirie. Durant 3 jours devant la cour criminelle du Vaucluse à Avignon, des peines de prison allant de 4 à 18 ans ont été requises pour les 50 co-accusés de l'affaire. Pour le principal suspect, Dominique Pellicot, la peine maximale pour des faits de viol aggravés a été demandée, soit 20 ans. Pour rappel des faits, pendant près de 10 ans, il a drogué sa femme dans le but de la violer et de la faire violer par d'autres hommes. Béatrice Zavaro, son avocate, a aujourd'hui tenté de défendre l'indéfendable. Le verdict du jugement devrait tomber au plus tard le 20 décembre. Les 16 et 18 novembre, Rennais et Rennaises étaient invités à la promenade sonore géolocalisée Prenez soin d'elle, une balade audio prenant place dans le très grand centre hospitalier de santé mentale Guillaume Régnier. Casque sur les oreilles branché à un petit boîtier rouge muni d'une antenne, curieux et curieuses sont partis à la recherche de 2 patients disparus, Camilla et Diana. Antoine, auteur, réalisateur et directeur du collectif ARS Nomadis, celui à l'origine de ce projet, nous en parle.
On est à la recherche de 2 patientes, Camilla et Diana. Ça vous dit quelque chose?
Non, là, comme ça, ça me dit rien. Il y a quand même 700 lits ici.
Moi, j'ai déjà mené une 30aine d'interviews de patients, soignants, agents de l'hôpital.
On est bien peu de choses, et mon ami la rose me l'a dit ce matin.
Maxime, c'est ça?
Tout à fait, je suis Maxime le jardinier.
Et puis on a fait des ateliers avec quelques patients, on a fait notamment des ateliers de création musicale. La flûte qu'on entend pendant la promenade, c'est un patient de Guillaume Régnier. Après, tous les comédiens qu'on entend dans la création, ce sont des comédiens professionnels et amateurs. Enfin, on a voulu à la fois faire découvrir le fonctionnement d'un hôpital, qui est énorme. Donc c'est à la fois révéler le fonctionnement interne.
Vous pouvez nous expliquer ce que vous faites là en ce moment?
Je livre le linge sale. Vous imaginez, il y a plus de 4 tonnes de linge qui sont livrées chaque jour. C'est une vraie petite usine là-dedans. Il y a 25 personnes qui travaillent tous les jours.
Et puis, évidemment, parler des difficultés qui se posent aujourd'hui dans le service public hospitalier. Et en même temps, moi, ce qui m'a beaucoup surpris dans toutes les rencontres que j'ai faites, c'est l'investissement énorme des soignants, leur conviction et leur engagement. La plupart des salariés que j'ai rencontrés ont beaucoup de plaisir à travailler là. Ils sont là depuis longtemps. Ça se transmet même parfois de génération en génération. Certains avaient leurs parents ou grands-parents qui travaillaient déjà à Guillaume Rigny.
Il y a une bonne ambiance ici avec le personnel soignant, très investi, il y a beaucoup de solidarité. J'aime mon travail, mais les conditions de travail sont difficiles.
Donc c'était tout ça, c'était aussi révéler l'histoire de ce lieu qui existe depuis le début du XVIIe siècle. Ça a été un asile, l'asile de Saint-Méen. Guillaume Rigny, c'est vraiment une petite ville dans la ville. Et donc, il y a tous les métiers. Il pourrait vivre presque en autarcie. Et c'est immense. C'est un quartier à part entière. On ne connaît pas parce qu'on n'ose pas rentrer. Mais c'est un site qui a plus de 400 ans, avec un très beau parc à l'intérieur.
Regardez, on voit le dôme de la chapelle qui surplombe la cour d'honneur.
Et si vous n'avez pas pu vous rendre à cette promenade, d'autres créations du collectif ARS Nomadis sont écoutables. Rendez-vous aux promenades du Blône pour découvrir une autre fiction. Habiter le seuil comme les fonds marins par exemple et rejoindre ses habitants par exemple des baleines, mais aussi les dérives et les rives, ces thématiques en rapport avec les océans seront abordées demain au Tambour. À 20h, dans le cadre du Festival Transversal, venez assister à des lectures de textes sur le thème « Rive-dérive ». Ce temps sera suivi de la projection du documentaire « Habiter le seuil ». Marine Chesney est partie danser, improviser aussi, dans les eaux de la Réunion. Elle a nagé, évidemment, et a surtout rencontré des baleines à bosse. À travers son film « Tourné en apnée », la chorégraphe nous emmène dans ce voyage sous-marin hypnotisant. L'événement est gratuit et sur réservation. Et qui dit jeudi, dit un nouveau jeudi des archives. Demain à 18h, venez découvrir gratuitement l'envers du décor des archives de Rennes où comment et pourquoi sont conservés les documents d'archives. Vous saurez tout à la fois sur la gestion des archives, sur le métier d'archiviste et sur les coulisses de ce lieu.
Merci Aglaé pour ce flash. On passe à l'interview.
6h.
Minuit, pourquoi ?
Syllab.
Il est midi.
La radio sauvage.
Minuit.
01.
Il y a minuit, plus personne.
6h avant minuit.
À l'université Rennes 2 vient de s'ouvrir une chaire au nom de Denis Mukwege, gynécologue et prix Nobel de la paix. Pour cela, nous recevons Cyriane et moi ce soir, sa présidente Renée Dickasson.
Ce soir, habillée toute de bleu, même son foulard, j'ai face à moi Renée Dickasson. Vous êtes professeure en civilisation et histoire contemporaine, médias, culture et mémoire de guerre et désormais présidente de la chaire recherche-action Dr Denis Mukwege en mémoire de survivante et visibilisation des violences. Et donc vous êtes la présidente de cette chaire. Bonsoir.
Bonsoir, Sylvain.
Donc, qu'est-ce que c'est déjà une chaire de recherche en fait ?
Alors une chaire de recherche telle que nous l'avons conçue est un programme de recherche en fait qui allie la pédagogie et la recherche appliquée et fondamentale. Donc l'originalité en fait de cette chaire, c'est que nous avons opté pour une formation courte dédiée aux survivantes de viol et de violence. Et pour la première promotion, on a essayé d'être en lien direct avec un certain nombre de survivantes en République démocratique du Congo, donc qui ont été suivies par le docteur Denis Mukwege. Voilà.
Et donc justement, la chaire porte son nom à Denis Mukwege. Mukwege, pardon. Qui est-ce en fait ?
Alors Denis Mukwege, c'est un gynécologue de formation. Il a fait une partie de sa formation, d'ailleurs, en gynécologie, en tout cas, toute sa formation à l'Université d'Angers. Et il a été amené à se spécialiser dans les réparations des corps mutilés, en particulier suite aux violences sexuelles qui ont lieu dans son pays. Il a, entre parenthèses, un grand palmarès, hein, puisqu'il a aidé 80 000 survivantes Et c'est un programme, ce qu'il a décidé de faire, c'est un programme holistique, c'est-à-dire que ça n'est pas uniquement chirurgical. Il y a toute une dimension aussi sociale, socio-économique, culturelle, juridique et réinsertion professionnelle aussi des femmes suite à ce qui leur est arrivé.
Et donc justement, est-ce que vous pourriez développer sur un peu les thèmes, les différents thèmes qui sont abordés dans ce mémoire, enfin dans cette chaire de recherche ?
Alors nous, on a choisi un angle assez spécifique et assez pointu qui n'a pas été vraiment développé jusqu'à présent, qui est donc l'angle de la mémoire, de la mise en mémoire et de la mémorialisation. Donc la mémorialisation, c'est aussi garder des traces et donner la parole ou amplifier la parole des survivantes quand elles sont prêtes à le faire. Parce qu'il y a tout un travail aussi d'accompagnement psychologique autour. Oui, c'est à peu près ça.
Et donc justement, vous avez rencontré des victimes de ces violences en physique. Combien vous en avez rencontré, vous direz ?
Alors j'en ai rencontré, je dirais, à distance et aussi en présentiel. Donc la première approche a été justement à distance, puisque ça a été une mise en contact avec des survivantes qui pouvaient se permettre de prendre la parole et qui l'avaient demandé et qui étaient accompagnées. Donc je dis ça parce que c'est très important. En République démocratique du Congo. Donc ça a été la première approche, donc faire connaissance aussi, parce qu'il y a aussi toute une dimension, nous sommes en France, nous parlons à un public du Congo, donc il faut comprendre les réalités culturelles, qui nous sommes, qui elles sont, enfin bref. Et là, on a dépassé ce stade, ce qui nous a permis aussi de nous conforter dans les travaux que nous avions un petit peu entamés, donc à titre un peu expérimental d'abord.
Et du coup, vous avez uniquement rencontré des personnes du Congo, c'est ça ?
Alors, non. J'ai aussi rencontré des personnes, ne serait-ce que récemment, alors pas exclusivement moi-même, oui. dans ce cas-là, à la Maison des Femmes, puisque le docteur a rendu visite à la Maison des Femmes le 19 novembre, et deux femmes ont souhaité s'exprimer. Donc voilà. Autrement, j'ai aussi un certain nombre d'étudiantes qui sont venues me voir. Et des collègues, des jeunes collègues.
Et justement, avec l'arrivée des nouveaux médias, on n'a plus forcément besoin de faire ces rencontres directement. Mais par exemple, sur le sujet de l'excision, moi, j'en ai jamais entendu parler dans les médias traditionnels, que ce soit la télévision, les journaux ou la radio. Et c'est grâce aux réseaux sociaux que j'ai entendu parler de ces violences. Et comment est-ce que vous... est-ce que vous abordez toutes ces nouvelles formes de témoignages dans cette chaire, ou est-ce que ça vous a permis, est-ce que vous êtes appuyé sur les réseaux sociaux et l'arrivée de, par exemple, de médias féministes ou de choses comme ça ?
Alors, on n'a pas fait cette approche-là sous cet angle-là, justement, parce qu'on voulait partir, on avait plutôt une approche phénoménologique. On part directement au contact des survivantes et on voit comment on peut rendre visible leur réalité. Pourquoi ? Parce que, comme on le disait en préambule tout à l'heure, ma spécialité, ce sont les médias audiovisuels et puis numériques maintenant. Et on s'est aperçu qu'il y avait quand même beaucoup d'informations autour des viols, des survivantes, justement des mouvements féministes, etc. Et qu'il y avait peut-être une autre façon de faire passer le message. Donc il y a parfois, j'ai noté, je travaille sur le monde anglophone en particulier, une sorte de saturation, et donc on se dit finalement c'est un entrefilet, c'est une information qui passe entre deux informations, et finalement le propos est un peu dilué, et on oublie l'essentiel. Donc il y a aussi un autre problème qui nous a frappé, c'est que quand on interviewe justement des survivantes, par exemple sur un lieu de guerre, peu importe les lieux, il y en a tellement, on ne va pas tous les nommer, finalement, des précautions ne sont pas véritablement prises, parce qu'on filme la survivante, on capte l'émotion, c'est-à-dire généralement elle pleure ou elle crie au secours, et puis il n'y a pas de... il n'y a pas de suivi, on ne sait pas qui est cette personne, mais son image circule. Donc ça nous a aussi interpellé. Comment rendre visible mais de le faire avec, je dirais, une certaine décence et un respect et une sobriété aussi.
Et pas avoir un espèce de regard un peu voyeuriste sur la chose, quoi.
Absolument. Je crois qu'on peut travailler différemment. Je suis un peu d'accord, voyeuriste, voire exhibitionniste, parce que sensationnaliste. Hein, donc là, on est là pour un scoop et puis s'appuyer sur la misère du monde. Là, on est dans un processus plutôt de reconstruction et de réparation. Ce n'est pas de stigmatisation ou de montrer finalement que ces personnes-là, on les montre du doigt finalement.
Et justement, depuis quand est-ce qu'on recense le viol ou plus globalement, depuis quand le monde de la recherche en fait, s'intéresse à cette problématique
Alors, le monde de la recherche, je ne peux pas répondre pour toutes les disciplines, évidemment.
C'est large.
Dans ce que je connais, moi, c'est quelque chose d'assez récent, on va dire, une dizaine d'années à peu près. Mais en même temps, j'ai constaté que quand j'ai essayé de lancer ce projet, mes collègues me disaient, bon, on peut parler des écartés, des rejetés, des oubliés. Mais alors, des survivantes de viol et de violence, là, ça a provoqué un long silence, en fait. Et même, on va réfléchir.
Voilà. C'est-à-dire des écartés.
Alors, les écartés, moi, quand j'ai commencé mon travail, c'était justement tous ceux qui n'apparaissaient pas, finalement, dans l'histoire, dans les manuels d'histoire, etc. Ou alors, sous une forme très globale, les oubliés de tel et tel événement. Les soldats inconnus, ils sont tellement inconnus qu'on ne sait pas comment ils s'appellent. Donc c'est un concept, mais finalement qui ne parle pas. Et je crois que dans ce sujet-là, il faut justement interpeller tout le monde. Il faut aussi faire bouger les lignes, il faut faire réfléchir. C'est pour ça que c'est important aussi que ce soit à l'université, parce qu'on doit malgré tout faire avancer les mentalités, changer les comportements. Et une idée que j'ai à l'esprit, alors qui n'est pas encore, n'a pas été débattue, on va dire, avec mes collègues, mais c'est peut-être aussi intégrer cette réflexion-là dans la formation, dans les formations, quel que soit le niveau à l'université, que ce soit, au sein des collègues, qui eux-mêmes parfois ont des réactions... Alors, je ne sais pas comment les décrire, mais ils ne se sentent pas concernés, on va dire, ou pas directement concernés pour l'intégrer dans leur cours. Et je pense qu'il y a quand même quelque chose à faire passer. Et puis aussi envers les étudiants, dans les comportements qu'ils peuvent avoir entre eux, l'accueil de l'altérité, par exemple. Voilà.
Oui, puisque, étant donné que la société est plus ou moins régie sous ce système, en fait, ça touche absolument toutes les sortes de disciplines, peu importe le champ de la discipline en fait.
C'est ça, parce que nous sommes des citoyens. Donc après, on se construit en tant qu'être humain, donc que ce soit à l'école, que ce soit à l'université, c'est aussi là où on ouvre nos horizons, où on devient l'homme et la femme, ou la femme et l'homme de demain, et d'aujourd'hui aussi. C'est-à-dire que, des comportements qu'on peut avoir, du vocabulaire qu'on utilise. Parfois sans réfléchir et qui peut faire mal. J'essaye de sensibiliser aussi autant que faire se peut mes étudiants pour le moment, mais je pense qu'il y a quelque chose à faire de façon un peu plus profonde.
Et justement, il me semble que vous êtes en lien aussi avec des soignants et des soignantes pour les former à ces questions ou même à comment recevoir des personnes qui ont été victimes de ces violences.
Oui, tout à fait. Elles sont tout à fait intéressées par cela parce qu'évidemment, ce sont des témoins. Et pour être plus efficaces finalement dans leurs soins et dans leur accompagnement, elles doivent comprendre comment, par le biais de l'éducation, de la formation et d'activités aussi artistiques, on peut aussi progresser. Et ça aide aussi à donner confiance aux survivantes. L'idée, c'est aussi de les autonomiser. Et puis, le mot est un peu compliqué en français, mais de les aider à un empouvoirment.
Oui.
Alors, leadership, je ne sais pas l'équivalent en français, j'ai un peu de mal, mais...
Il me semble qu'un empouvoirment, c'est rentré dans le dictionnaire, il me semble.
Je vais vérifier. Alors, leadership, je ne sais pas, mais c'est ça. C'est-à-dire aussi avoir confiance et puis les aider aussi à bâtir des récits, qu'ils soient plus personnels ou plus dans un registre de plaidoyer.
Et donc justement, en quoi selon vous ce type de travaux de recherche, il permet l'éradication en fait des violences sexistes et sexuelles ?
Alors l'éradication, c'est un grand mot, mais je pense que ça va permettre de réfléchir différemment et de transformer. Alors après, transformer, ça se fait progressivement, même si quand on regarde les mouvements féministes, finalement, la transformation peut être vue comme lente ou rapide. Ça dépend de l'interprétation qu'on peut en avoir. L'éradication, ça va être quelque chose de très long. Je pense que je serai déjà partie de ce monde quand les choses arriveront là, si elles arrivent là. Mais au moins, limiter et changer les attitudes et les comportements. D'ailleurs, à cet égard, on a eu une conversation très intéressante avec le docteur Mukwege, parce que il nous a dit alors plusieurs choses, bien sûr, mais notamment comment éduquer les plus jeunes au niveau de l'école primaire, par exemple, ou secondaire. Et il a un créneau assez intéressant, puisqu'il parle de la masculinité positive, mais en jeunesse. Voilà. Donc, mais après, est-ce que c'est simplement la masculinité positive? On peut aussi parler de féminité positive. Voilà.
Est-ce que vous pourriez expliquer ce que c'est, du coup, ce concept de masculinité positive?
Eh bien, c'est tout simplement savoir se comporter de façon respectable envers les autres. Hein, donc, pas de violence, un vocabulaire adapté, et puis, voilà, agir dans la bienveillance.
Eh bien, il faut faire de même. On invite tous nos auditeurs et auditrices à bien éduquer leurs enfants. Comme de
absolument, la telle façon. À changer un petit peu aussi les regards vers l'autre, alors que ce soit dans une perspective genrée, mais aussi, je dirais, géographique. Hein, donc, changer un peu les regards selon les contextes et les aires géographiques.
Mais merci.
Je vous en prie, merci beaucoup.
Merci René Dickasson. On va passer à la chronique. Un petit jingle.
Avant minuit.
Aujourd'hui, c'est la chronique de Jean, la sortie de la semaine. Alors, je ne sais pas comment vous décrire ça. Donc là, il a un gourdin en bois, on va dire, parce qu'on a dit que le plastique, c'était pas bien tout à l'heure. Il a une casquette un peu flicaille, mais flicaille LGBT, quoi. Ça brille, il y a des paillettes. Et puis, en fait, pour seul habit, il a un sac à patates. Voilà. Jean, t'es déguisé en quoi là? Je comprends pas, c'est n'importe quoi cette émission aujourd'hui.
Bah, ça me paraissait évident quand même. Je suis un barbare en festival.
Ah, ok.
Oui, bon, ok. Avec la casquette et le gourdin, ça fait un peu flic de la préhistoire.
Hein.
Mais bon, ACAB, All Cro-Magnon, Arbastars. Allez, c'est parti. Barbare, quelle est votre profession? Salut les barbares! Alors, prêt à casser du romain? Non, je rigole, je suis un barbare pacifiste. Si j'ai un gourdin, c'est uniquement pour avoir un truc à agiter pendant les concerts. Et justement, cette semaine, je vais vous parler d'un événement qui devrait faire lever les gourdins très très haut. Le festival Culture Barbare. Alors, Culture Barbare, c'est un festival qui se déroule ce week-end dans toute la Gaule. À Rennes, ça se passe dans une vingtaine de bars avec des concerts du jeudi au samedi. Donc, autant vous dire qu'il y a du choix. Mais puisqu'il faut choisir, à Modou je peux le dire, sans contrefaçon, j'irai au Melody Maker jeudi soir, demain donc, voir le concert de Fauna Nova. On écoute un extrait. Ah merde. Lancé en... Ah, c'était pas parti le micro.
Vas-y, redis ta phrase.
Allez, je reprends.
C'est parce que t'as voulu casser le studio avec ton gourdin.
Pardon.
C'est le karma.
Fauna Nova, c'est un trio rennais lancé en 2022 à l'initiative de Maxime Pouban, également musicien de l'excellent groupe Chusky & Wood. Ils ont sorti un EP en 2023 et s'apprêtent à sortir leur premier album début 2025. Leur univers musical se situe entre la cold wave et le crowd rock, mais pioche aussi des inspirations dans la noise et plus largement dans le post-punk. Une voix désincarnée, voire robotique, des synthés et des envolées de guitare psychées, des rythmiques froides et entêtantes faites à la boîte à rythme, et puis une énergie en live qui a déjà séduit plusieurs festivals rennais. D'ailleurs, on retrouvera également le groupe la semaine prochaine au Bar en Transe. Fauna Nova, une faune nouvelle, comme celle qu'on rencontre dans les espaces alternatifs, les bars et les festivals par exemple. Alors rendez-vous demain au Melody Maker pour le concert de Fauna Nova et tout le week-end au festival Culture Barbare.
Merci Jean. Oh putain, tu fais peur.
Ouais,
oh la vache.
Les barbares en festival.
Moi je me dis qu'est-ce que ça va être la prochaine chronique, parce que tes costumes sont de plus en plus élaborés.
Merci,
quand même,
merci
je trouve.
Et ben on verra bien ce que l'avenir nous réserve. Peut-être un Père Noël tout simplement.
Ah, qui ouais. sait. Il ben, faudra écouter 6 heures avant
Père
minuit
Noël
pour
en
le
festival,
savoir.
Je sais pas ce que ça va donner.
Ça marche toujours le Père Noël. Puisque tu parlais de culture barbare, on peut inviter nos auditeurs et auditrices à réécouter le podcast. On était 6 heures avant minuit, était en émission spéciale vendredi dernier. À Désordre pour parler de culture barbare, c'est disponible à la réécoute sur notre site. Et puis reste avec nous Jean, je crois que tu as une petite surprise à révéler à la fin de cette émission, juste avant mon petit message habituel.
Ah, le téléphone.
Téléphone.
Allô, allô.
La radio sauvage.
Notre téléphone a un peu sonné, mais on s'avoue qu'on n'a pas tout compris ce qu'il y avait laissé sur notre répondeur. Donc on ne vous le diffuse pas parce qu'on vous respecte un minimum. Mais si jamais vous êtes sobre, que vous avez un message à nous faire passer, que vous avez un retour à nous faire sur nos reportages, sur nos invités, sur nos super chroniques, eh bien n'hésitez pas, laissez-nous un message vocal. Le numéro c'est le 02 30 96 25 35. On diffusera votre message à la fin de l'émission. Je voudrais remercier Alexis pour la technique, c'était sa première, bravo,
bravo.
Wow. Et puis je laisse Jean conclure.
Oui,
attends, tu veux en tout bien tout honneur.
Il oui, y a des gens sous qui ont envoyé des messages à Syllab.
Je ne sais pas s'ils étaient sous, mais
c'est Noël.
Personnellement, je le... Ouais. En tout cas, je sais pas, il y avait un petit pet au casque quelque part.
C'est bientôt Noël. Voilà. Spill the hot wine, comment on dit.
Spill the hot wine.
Et donc oui, pour terminer cette émission sur une petite exclue, bah le groupe Fauna Nova sort un premier single de son album à venir demain. Et ils nous ont proposé avec beaucoup de gentillesse de le passer en exclusivité ce soir.
Super, merci
sur
à eux.
Syllab, voilà, bah merci à eux.
Et à elle.
Ça s'appelle Deutsch. Alors Deutsch, c'est le nom récent des Saxons que connaissent bien mes amis barbares du coup.
Ah oui.
Allez, c'est parti pour Deutsch de Fauna Nova.
Vai, ich, immer, noch, kein, Deutsch, spreche. Vai, ich, immer, noch, kein, Deutsch, spreche.
Il arrive précisément à l'heure prévue.
6 heures avant minuit.
Ils sont partis dans les couloirs du temps.
6 heures avant minuit, 18h, 19h sur Syllabe,
la radio sauvage.